de grandes foules faisaient route avec Jésus. En ces temps troublés, où les classes dirigeantes de son pays ont perdu tout crédit, Jésus sait que ces foules qui le suivent sont en attente de changement. Mais Jésus les met en garde. Ce qu'il propose n'est pas la voie de la facilité. Qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple. Jésus ne nous parle pas pour nous séduire, pour nous dire ce que nous aimons entendre. Pour être chrétien, il ne suffit pas d'adhérer à des grands principes ou à certaines valeurs. Celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il a, tout ce qui lui appartient, ne peut pas être mon disciple. Chers amis, sommes-nous prêts à cela ? Jésus nous demande-t-il vraiment, comme nous venons de l'entendre dans l'Évangile, de le préférer à son père, sa mère, sa femme ou ses enfants ? Évidemment, Jésus ne demande pas de ne pas aimer sa famille. Au contraire, il veut nous dire que même les sentiments qui nous semblent les plus naturels, sentiments entre parents et enfants, sentiments entre époux, sentiments entre frères et sœurs, ces sentiments ont besoin de conversion. Les sentiments sont bons, et nous venons de l'entendre dans l'épître à Philémon. Il est bon d'avoir des sentiments. Et Jésus lui-même a pleuré auprès de son ami Lazare. Mais les sentiments ont besoin de conversion. Si tu crois que ton époux t'appartient, que ton épouse t'appartient, si tu crois que tes enfants t'appartiennent, tu ne peux pas être mon disciple. Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Pour apprendre à aimer vraiment, le cœur de l'homme a besoin de se laisser conduire, de se laisser accompagner par le Christ. Pour que cette capacité à aimer que Dieu a mise en chacun de nous ne soit pas tournée uniquement vers soi-même, mais qu'elle nous entraîne à nous dépasser. Nous dépasser en apprenant à aimer comme le Christ nous a aimés. En fait, même si les exigences de l'Évangile que nous venons d'entendre, avouons-le, ces exigences nous dérangent, Jésus ne fait pourtant que nous redire d'une autre manière « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Il n'avait que 15 ans quand le 12 octobre 2006, une leucémie fulgurante l'arrache à la vie. Carlo Acutis devient aujourd'hui le premier saint du nouveau millénaire. Mais comment a fait Carlo pour devenir un saint ? Il a aimé. Il a aimé avec intensité, avec simplicité, il a aimé avec créativité. Il a fait de l'Eucharistie le centre de son existence. Parce qu'il savait que dans l'Eucharistie, c'était le Christ qui était réellement présent, qui voulait devenir notre ami, cette Eucharistie qu'il appelait notre autoroute vers le ciel. Depuis sa première communion, pas un jour n'est passé sans, pour lui, la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Un jeune homme passionné de nouvelles technologies, il a mis son talent d'informaticien au service de l'évangélisation, notamment au service d'expositions numériques, comme celle sur les miracles eucharistiques. Carlo ne prêchait pas, il témoignait, en particulier dans son amour pour les pauvres. Il racontait, avec les codes et les images de son temps, combien d'adolescents se sont rapprochés des sacrements grâce à lui. Pendant sa vie, mais depuis sa mort. Combien de conversions sont nées d'une vidéo, d'une photo, d'une phrase de Carlo ? un saint en jean et en basket. Et c'est comme cela que nous pouvons le voir à Assise, où son corps est conservé, intact. Un saint en jean et en basket. Un garçon de son temps qui aimait les jeux vidéo, qui aimait jouer au foot avec ses amis, mais qui laissait guider son cœur par l'amitié du Christ. Pier Giorgio Frassati, un étudiant italien, ingénieur, alpiniste, passionné de montagne, qui descendait des sommets pour apporter des médicaments, des vêtements et réconfort dans les taudis de Turin ou dans les salles d'hôpital. Un jeune homme, comme tous les jeunes hommes, un jeune homme amoureux, un jeune homme joyeux, plein de vie, plein d'idéal, un jeune homme engagé pour la justice. À travers l'Action catholique, les sociétés Saint-Vincent de Paul, le tiers-ordre dominicain et comme Carlo lui aussi, un amoureux inconditionnel de l'Eucharistie. Pour lui, il n'aurait jamais pensé que l'Eucharistie pouvait le conduire au sommet. Et pourtant, lorsqu'il meurt le 4 juillet 1925, à 24 ans seulement, une poliomyélite fulgurante contractée pendant une des visites des malades, il savait que le Christ qu'il avait accompagné depuis sa première communion n'avait jamais cessé de venir à sa rencontre à chaque Eucharistie. Jean-Paul II, en le béatifiant en 1990, a fait de lui le patron des sportifs. Et d'une certaine manière, il nous invite à le suivre sur le sport extrême de la charité. Belle prière du Saint-Père qui disait « Donne-nous le courage d'aller vers le haut !» Et c'était la devise de Pier Frassati, « Aller vers le haut !» Aller vers le haut pour échapper à la tentation de la médiocrité et de la banalité. Oui, rends-nous capables d'aspirer aux choses plus grandes avec sa ténacité et sa constance et d'accueillir avec joie ton invitation à la sainteté. Voilà ce que nous dit l'évangile d'aujourd'hui. C'est une invitation à la sainteté, en jean ou en basket. Et dans cette prière, Jean-Paul II ajoutait « Libère-nous de la peur de ne pas réussir ou de la fausse modestie de ne pas être appelé à devenir un saint. » De la fausse modestie de ne pas être appelé à devenir un saint. Que ce soit Carlo, que ce soit Pier Giorgio Frassati, ces saints d'aujourd'hui nous interrogent. Quelles sont les valeurs qui guident aujourd'hui ma vie? Quelles sont les valeurs que je suis prêt à transmettre à ma famille ou à mes proches? Élever des enfants signifie aussi leur montrer le chemin qui élève, qui mène vers le haut. Nos enfants ont plus besoin que nous leur transmettions des valeurs morales et des valeurs spirituelles que des biens matériels. Même s'il est important de s'inquiéter sur l'avenir des retraites ou sur le déficit de la sécurité sociale, nous devons nous interroger sur le déficit spirituel que nous allons transmettre aux générations futures. Il est certainement urgent de se remettre en cause dans notre manière de vivre pour transmettre aux générations futures une planète propre. Mais il est aussi essentiel que nous leur transmettions des valeurs propres, des valeurs spirituelles et morales qui donnent un sens à leur vie, qui ne les confortent pas dans la médiocrité ou dans la banalité, mais qui les tirent vers le haut. Alors c'est vrai, c'est dur d'entendre Jésus poser des exigences alors que la culture dominante de notre époque est une culture de la facilité. J'entends toujours résonner dans mon cœur, c'est au moment où je m'apprêtais à rentrer au séminaire, les paroles de Jean-Paul II à Lourdes, en 1983. « Ceux qui ne vous parlent que de facilité vous trompent. Ceux qui ne vous parlent de facilité vous trompent. Ils continuent à nous tromper aujourd'hui. Le Christ ne nous parle pas de facilité, mais d'amour. Le Christ nous rappelle les exigences de l'amour et dont les exigences de la vérité. On voudrait que le monde change sans que cela implique le moindre effort de notre part. Si nous voulons changer le monde, nous devons commencer par nous changer nous-mêmes. Et c'est pour cela que les paroles de l'Évangile insistent aujourd'hui sur le devoir de s'asseoir. S'asseoir pour méditer, s'asseoir pour réfléchir, dans une culture où on nous demande de réagir plutôt que de réfléchir. Réfléchir sur ce qui conduit ma vie, sur quelle fondation suis-je en train aujourd'hui de construire ma vie, sur quelle fondation suis-je en train de construire la vie de ma famille, de mes communautés. Donner du temps au Seigneur dans la prière, se laisser comme Carlo ou Pierre Giorgio, se transformer par l'Eucharistie pour que le Christ puisse guider mes actions, mes pensées, mes projets. Comment pourrions-nous oublier que notre avenir lui appartient ? Même si à vue humaine, nous ne savons pas toujours où nous conduit la route, nous avons la certitude que lui seul est le chemin.